Quelle idée de vouloir siéger à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire. Alors, mais quelle idée ? Selon Marc, les deux frères ont fait leur demande ensemble. Selon Matthieu, c'est leur maman qui est venue voir Jésus pour lui demander cette faveur. Ambition personnelle des frères, ambition maternelle intériorisée par les fils. En tout cas, leur demande est impossible. Juste avant le passage que nous venons de lire, Jésus disait « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui n'ait quitté, à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple dans le temps présent, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Suit encore une annonce de sa mort et de sa résurrection. Et voilà que deux disciples demandent de pouvoir occuper les places 2 et 3, à côté de celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga tout en un. Voilà que les deux frères, Jacques et Jean, pensent déjà à l'après-résurrection, quand le Maître viendra dans sa gloire. Ils étaient bien naïfs, mais si l'histoire est rapportée, c'est aussi pour que les générations suivantes sachent en quoi on se lance, quand on se met dans les pas de ceux de Jésus. Les persécutions qui accompagnent l'entrée du chrétien dans une nouvelle famille seront maintenant explicitées. Vous boirez la coupe que moi je bois. La vie éternelle dans le monde à venir ne suffit pas à l'ambition des fils de Zébédée. Ils veulent avoir ce qu'ils croient être les meilleures places. Les motivations pour suivre Jésus ont pu être multiples chez chacun de ses disciples. Mais ici, nous voyons que suivre Jésus pour assouvir une ambition sociale a existé depuis le début de son ministère. Et cela n'a pas empêché Jésus de les accueillir comme disciples, lui qui connaît les cœurs et sonde les reins. Jésus travaille avec les gens tels qu'ils sont, pour les emmener plus loin, heureusement pour nous. Sur qui va occuper quelle place dans le monde à venir, l'homme n'a aucune prise. Il n'y a pas lieu d'avoir des ambitions ni de rivalité. Les deux frères évoluent dans un environnement fraternel. À la suite de Jésus, ils ont reçu 10 autres frères qui vont aussi réagir sur leur ambition. Ils s'indignèrent. Qui sont-ils pour croire qu'ils sont les meilleurs parmi les 12 ? Bien sûr que ce ne soit pas eux, puisqu'il manque d'humilité. C'est une perversion de l'humilité que de se croire supérieur, car plus humble ou moins ambitieux. Jésus coupe court à la rivalité entre disciples, comme il le fera à plusieurs reprises selon les évangiles. La rivalité entre frères est aussi vieux que l'histoire. Pensez à Caïn et Abel, et je suppose que vous avez pu en faire l'expérience dans votre vie. Que ce soit pour avoir les faveurs de la maman ou de la maîtresse de maternelle, chaque enfant développe sa propre stratégie avec plus ou moins de succès, et même si on laisse la préférence à l'autre, cela peut encore être une stratégie pour obtenir un bénéfice moral. Devenir véritablement équitable est un long chemin. Accéder à l'humilité véritable, accéder à une fierté sans orgueil, est le travail de toute une vie. Travail de l'Esprit Saint en nous, mais qui demande notre bonne volonté. Que ce soit pour nous opposer à nos parents ou pour leur plaire, l'entrée en Église est encore aujourd'hui souvent marquée par l'histoire de notre famille. Dans certaines familles, il est bien vu de participer à la vie de l'Église. Dans d'autres, on y voit une tentative de chercher à occuper une bonne place dans le monde à venir. On accepte une appartenance sociologique, mais on condamne une implication personnelle dans le témoignage de la foi. D'autres familles encore se sont trahies par le fils ou la fille qui s'écarte de la tradition familiale. Il faut du courage pour faire face au mépris de ses proches pour un engagement explicite à la suite de Jésus. Jésus sait que ce n'est pas simple, Il a vécu lui-même la tension entre le commandement d'honorer son père et sa mère et l'impossibilité de plaire en tout à ses proches quand on veut suivre sa vocation. Et pourquoi donc risquer sa vie familiale et sociale à la suite de Jésus ? Jésus a donné sa vie en rançon pour une multitude, pour tous. La multitude est libérée des chaînes du péché à cause du sacrifice d'un seul, à cause du serviteur unique, l'innocent qui s'est livré lui-même. Nous avons libre accès auprès de Dieu. La mort est venue dans le monde à cause du péché d'Adam. Le salut cosmique annoncé par Ésaïe est advenu à cause du don de lui-même du nouvel Adam, fils de l'homme, fils du ciel et de la terre. En Jésus, le monde à venir est advenu. C'est vrai, il n'y a pas à en douter. La question qui demeure est comment le rejoindre, lui et ce monde ? Comment accéder au royaume ? Il est bien établi que hiérarchie au royaume est un sujet qui nous dépasse infiniment et qui n'a pas lieu de s'y intéresser. Mais la question de comment trouver le chemin du royaume reste importante. Une réponse courante est « Vous y accédez par la foi ». Et cela aussi est vrai, il n'y a pas à en douter. L'expérience de la foi n'est pas disponible en sachet, ni en brique, ni même en bouteille. L'expérience de la foi demande que nous nous mettions en route, intérieurement et physiquement. Il faut ouvrir sa Bible et lire, se laisser travailler par l'expérience de la foi des générations qui ont rédigé les Écritures, se laisser travailler par les paroles de Jésus, appliquer ses commandements comme on peut, essayer de comprendre de l'intérieur ce qui a bien pu se passer en ce temps-là, loin de chez nous, en Palestine. S'ouvrir aux mots qui nous viennent de loin et écouter l'écho qui se fout en nous, puis écouter l'écho des mots. Puis quand notre oreille s'est exercée, parfois d'un coup, il y a une parole qui se donne à entendre, une voix de fin silence, et c'est cette voix qui nous touchera au cœur et qui nous donnera l'assurance indélébile que le royaume est là, au milieu de nous, et que personne ne pourra nous le ravir. Que cela n'a aucune importance de savoir sur quel siège on sera assis, parce que là-bas, c'est la fête, on y danse, on y chante, on y est vivant, tout simplement. Puis, il faut oser s'enraciner dans ce terreau-là, dans ce terroir, loin de nos racines, familiales, pour découvrir d'autres parentés, d'autres solidarités, d'autres manières de voir la vie et le monde. Je dis « il faut », mais c'est bien sûr comme on veut, c'est simplement l'indication d'un chemin, mais qui, je pense, en vaut la peine. Nul ne peut suivre Jésus de sa propre volonté ni de sa propre force. Mais si on a reçu le désir, il est possible de faire un bout de chemin. Il est possible de se laisser rencontrer. Nous verrons bien ce qu'il se passe. Bonne route. Amen.
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 35-20.